Reste maître de la rue.
Mon grand-père était ouvrier à Citroën. Mon arrière-grand-père était secte protestante darbiste d'Ardèche. Mon père devient une sorte d'intellectuel auto, se construit lui-même comme un intellectuel, mais il commence par des petits boulots de prof sans diplôme, dans le privé, avant de devenir une personnalité intellectuelle. Et du côté de ma mère, elle est britannique, elle a passé la Manche pour faire une thèse. De son côté aussi, la famille, c'est... Il y a d'un côté un pan de la famille qui, il y a un succès, petite bourgeoisie qui commence à se développer en tant que... de s'enrichir. Et elle prépare une thèse, elle va la... et une autre partie de la famille qui est restée dans une situation de pauvreté. Donc là, je rentre dans des schémas, collectifs qui me semblent assez symptomatiques de la période. Après, j'ai la particularité, comme mes deux autres frères, d'avoir un père qui est devenu, un militant dans la gauche des jeunesses socialistes, puis dans le mouvement trotskiste, puis dans l'organisation de la résistance en tant que militant trotskiste à l'occupation nazie, et dont l'une des activités a été les contacts avec des soldats de l'armée allemande sous le thème « Sous l'uniforme, tu restes un travailleur », donc pour faire, de la démoralisation de classe dans l'armée allemande, en contact avec la résistance française. Il se fait arrêter par la Gestapo, envoyé dans les camps nazis, Buchenwald notamment. Un hiver de plus, il mourait, et je ne serai pas là à parler. Mais quand il rentre, il a commis trois ouvrages de grande importance. Un essai, tout de suite en rentrant, un essai sur l'univers concentrationnaire, c'est-à-dire qu'est-ce que sont les camps nazis, l'histoire de ces camps, des luttes politiques qui ont eu en leur sein, et du type d'ordre social qui est constitué par les nazis dans ces camps gigantesques. Bon, le deuxième ouvrage, c'est Les jours de notre mort, qui est sous forme de roman toute l'expérience qu'il a ramenée de ces camps. Et le troisième, qui est moins connu, mais qui est important à l'époque, parce qu'à l'époque, on n'en parle pas, c'est des documents sur l'antisémitisme sous Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il est devenu une personnalité. Il a lancé une commission internationale contre le régime concentrationnaire. Donc, c'est un moment dans notre existence, dans ma jeunesse, donc c'est dans ma toute jeunesse. Je suis l'enfant de retour de camp. Donc, c'est dans ma toute jeunesse, il y a un moment, où mon père est extrêmement connu. Grâce à l'activité sur la commission internationale contre les camps de concentration et puis les revenus de ces ouvrages qui se vendent très bien à l'époque, c'est un moment où on a plus d'argent qu'avant, plus d'argent qu'après. Par exemple, je vais à l'école alsacienne, qui est une école qui est tout près de chez nous, qui à l'époque est considérée comme une école pédagogiquement avancée. Et c'est une école privée sous contrat. Où je lui dois beaucoup, je fais toute ma scolarité dans cette école, et je pense qu'elle m'a beaucoup apporté, mais en même temps, je reste un roturier parmi des enfants d'avocats, des enfants d'ambassadeurs, des enfants, etc. Donc je pense que ça va marquer un peu mon histoire, c'est-à-dire que la politisation vient vite, mais vu que je suis dans cette école où peu de choses se passent, je ne participe pas à la résistance active à la guerre d'Algérie. Ça fait par exemple la différence entre moi et la génération juste avant, d'Alain Krivine par exemple, qui s'engage dans les activités de solidarité avec la résistance algérienne. Or, ça c'est clé. Hein, ça c'est clé sur le plan des générations de l'époque, disons très rapprochées, mais aussi pour comprendre les années 68 en France. Moi, je n'ai pas vécu ça. Je l'ai ressenti. Si j'avais été dans un lycée où il se passait des choses, je pense que j'aurais été dedans, mais en l'occurrence, j'y suis pas. En revanche, disons, mes choix sont faits. C'est-à-dire que quand je sais que dès que je deviens étudiant, je deviens militant. Je sais que je vais militer dans la fraction gauche de l'UEC. L'Union des étudiants communistes est à l'époque, le PC a perdu le contrôle de son union étudiante. Beaucoup de courants d'extrême-gauche nouveaux se constituent à l'intérieur de l'UEC, des courants maoïstes, nous, etc. Et je sais déjà, quand je deviens étudiant, que je vais directement rentrer dans la fraction gauche de l'UEC, où il y a Krivine, Catherine Samary, Jeannette Abel, Henri Weber, etc. Il y a cette ambiance générale très politique. Il y a le fait que, disons, il y avait un bouillonnement militant constant, notamment lié à l'affrontement avec les fascistes au Quartier Latin. Il y avait les zones rouges et les zones blanches, celles qui étaient tenues par nous, les zones rouges, celles qui étaient tenues par Occident, les zones blanches. Et il y avait les zones contestées, où la bagarre était quotidienne, qui pouvaient être des restaurants universitaires, des marchés où on venait vendre notre presse, etc. Et moi, j'ai commencé mes études en prétendant faire de l'économie. Je pense que c'est une bonne chose que j'ai arrêté, parce que l'économétrie et moi, ça faisait deux choses bien, mais qui était la fac d'Assas. La fac d'Assas, qui est tout près de là où j'habitais par ailleurs. Droit, c'était tenu par les fascistes, et sciences éco, il y avait les gauchistes, entre guillemets, qui essayaient de tenir, la résistance. On a fini par perdre. On a fini par perdre, ce qui a signifié concrètement que je ne pouvais plus mettre les pieds à la fac d'Assas. Dès que j'approchais de la fac d'Assas, je me faisais casser la gueule. Même dans le café qui était entre chez moi et la fac, si j'y mettais les pieds, les fascistes m'en débusquaient, je devais foutre le camp par la porte de derrière, si je voulais pas me faire casser la figure. Donc physiquement, je ne pouvais plus mettre les pieds à la fac d'Assas. C'est ça que ça signifiait. On a eu une bagarre avec les fascistes devant le lycée Voltaire. On n'avait que des petites manches de pioche, comme ça. Bon, et eux, ils avaient un stock de barres de fer qui était planqué dans un chantier tout proche. On s'est fait balayer, et c'est là où j'ai pris un grand coup de barre de fer dans la tête, une embarrure au crâne. Je me suis glissé sous un camion pour essayer d'échapper aux fascistes. Le camion a démarré, crac, il y a la roue qui s'est appuyée sur moi. Le chauffeur de camion qui ne comprenait pas ce qui se passait, il a regardé. Il s'est rendu compte que j'étais en dessous. Et c'est quand je suis sorti pour essayer, parce qu'il fallait bien que je sorte de dessous le camion, que là j'ai pris le cours de barre de fer. Et quand les copains m'ont emmené à l'hôpital, il y a les flics qui sont arrivés, qui ont voulu me ramener au commissariat. Et c'est les internes et les infirmiers de l'hôpital qui se sont battus avec les flics, en gros, pour que je puisse être soigné. Et comme j'avais une embarrure, il valait mieux que je sois soigné. Il faut restituer tout ça, disons. Il faut restituer tout ça pour comprendre, l'engagement militant de l'époque, hein, depuis le contexte mondial jusqu'à le quotidien du conflit avec les fascistes, en passant par le dynamisme de la résistance à l'escalade américaine. C'est l'heure des guerres et des révolutions. Hein. Le terme de guerre froide, par exemple, qui est utilisé, est un terme proprement européen. Il ne faut pas dans le monde. Dans le monde, c'est la guerre chaude, la guerre d'Indochine, l'escalade américaine, qui, je crois, est la plus terrible des escalades qui a jamais eu lieu, en fait. C'est bien effectivement le gaullisme en France, la chape de plomb morale à connotation catholique qui existe et contre laquelle on se révolte. C'est le caractère insupportable disons, de la condition ouvrière dans les entreprises, qui se manifeste dans la période précédente, mai 68, par les grèves qui ont lieu dans une série d'usines, notamment de la jeunesse ouvrière dans la région de Caen, etc. Disons, la question de savoir dans quel milieu social ou à quelle occasion mai 68 a commencé me paraît une question sans raison. On avait noté les grèves ouvrières. On avait vu qu'elles se déroulaient. On avait vu la jeunesse ouvrière entrer en action. Et on s'était dit, l'étincelle étudiante peut mettre du feu à la plaine. Hein ? Donc on s'était dit ça. Mais Grimaud, le préfet de l'époque qu'on avait en face, était malin. Et en gros, l'affrontement avec la police, qui était l'étincelle qui aurait pu mettre le feu à la plaine, il nous l'a refusé. C'est-à-dire qu'en général, il nous a refusé l'affrontement avec la police. Et quand arrive le mois de mai, on est tous là à se dire « Merde alors, c'est les examens, il va falloir quand même qu'on essaye de les préparer, parce que le feu à la plaine, c'est pas pour aujourd'hui, c'est raté. Maintenant, c'est les examens, les étudiants vont rentrer dans les rangs, et ce sera pour l'automne. » Et donc moi, le 3 mai, je crois, je vais à la Sorbonne. Pourquoi ? Pour chercher un polycopier. Pour essayer de préparer mes examens en catastrophe. Il y a un petit meeting qui se tient. Je m'arrête, je regarde. Et crac, ce con de recteur appelle la police. La police rentre, nous embarque dans le panier à salade. Ça fait... Le bruit court partout, les étudiants se mobilisent, et c'est libérer nos camarades, libérer nos camarades. Donc moi, je trouve ça une jolie histoire. C'est-à-dire que j'étais parmi ceux qui ont été arrêtés dans le panier à salade du 3 mai parce que j'allais chercher un polycopier, pas du tout parce que je faisais une activité politique. Donc je trouve que c'est intéressant pour voir qu'on avait compris, disons, on avait compris le rapport qui pouvait se constituer entre un affrontement étudiant-policier par rapport à une situation sociale qui devenait explosive dans le pays, ça on avait compris, mais le moment où ça s'est passé et l'occasion où ça s'est passé, ça a été un hasard complet. Ça a été un hasard complet qui, en gros, était l'infinie bêtise du recteur. Donc voilà, donc ça a commencé, et après, évidemment, ça a été un développement... On n'avait jamais prévu, évidemment, que ça prendrait une telle ampleur. On arrive, disons, aux barricades. Alors, c'est bon, tout le monde a décrit cette ambiance. Les journalistes qui décrivent ce qu'ils voient et tous les transistors, effectivement, qui répètent. La population qui est solidaire, qui jette de l'eau par les balcons pour faire retomber les gaz lacrymogènes et nous soutenir. Et moi, je suis à l'extérieur de la barricade. Je suis à l'extérieur de la barricade et ce que je fais, c'est que je rattrape les lacrymos pour les renvoyer aux flics. Je rattrape les lacrymos pour les renvoyer aux flics et puis arrive une grenade offensive et je vais la renvoyer aux flics quand elle explose. Et je reçois dans les yeux de la poudre, celle qui a fait exploser la grenade. Bon, j'ai les yeux pleins de poudre, mais ça va, je continue. Et dès que j'arrête de me battre avec la police, il y a les yeux qui gonflent, et je deviens quasiment aveugle. Je deviens quasiment aveugle, donc au petit matin, disons, en tâtonnant, je rentre à la maison, dans les quartiers, à des allures qui ont des allures de zone de guerre. J'évite les flics tant bien que mal. J'arrive chez moi, heureusement, c'est à quoi, 1 kilomètre. C'est pas très long. Hein. Mais vraiment, ce qui m'a frappé, c'est ça. C'est-à-dire que tant que l'adrénaline était là, j'ai continué à voir. Et dès que c'est retombé, les yeux ont gonflé au point où j'étais presque aveugle. Moi, j'avais 22 ans. On déclenche, même si on n'est pas la seule cause, hein, pas du tout, mais on est le déclencheur de la plus grande grève que la France ait connue à l'époque. C'est. Non. Après ça, évidemment, on perd la main. Hein, c'est-à-dire qu'on ne pèse plus sur l'événement. Ça, c'est autre chose. On ne pèse plus sur l'événement, on fait ce qu'on peut, etc. Mais on ne pèse plus sur l'événement. On essaye de maintenir, de se construire, de tout ça. Mais les choses ne se font pas entièrement spontanément. Il y a des choses qui se font spontanément. Mais il y a des meetings à tenir. Est-ce qu'on les ouvre et qui sont unitaires? Avec qui? Sur quel sujet? Est-ce qu'on renouvelle les manifestations? Comment on maintient le rythme? Voilà. Hein. Et donc, on fait partie de ces gens qui ne peuvent pas simplement prendre le bonheur du moment, ou le malheur du moment d'ailleurs, suivant les cas, hein, mais qui a cette question lancinante, et après. Donc c'est disons, il y a eu des façons de vivre 68, et le bonheur du moment, de l'événement, où tout le monde se parle, où tout le monde... Bien, il y a le collectif s'humanise de façon fantastique, mais avec cette petite chanson en permanence, on a des responsabilités, on doit se poser le problème de que faire, avec qui, comment. Hein. Mais vous imaginez ce que c'est comme lancement d'un engagement militant et d'une activité militante. Hein. Quand je repense à la densité de l'activité militante de l'époque, c'est absolument incroyable. C'est une rampe de lancement. 68, c'est une rampe de lancement sur ce qu'on a fait après, à la fois sur... Enfin, c'est une expérience politique extraordinaire qui nous apprend à penser, qui nous apprend à lire l'événement. Hein. C'est d'avoir ça au début de son activité militante, c'est vraiment précieux, c'est une grande chance. Et ensuite, c'est une énergie militante qui est dégagée. Je crois que j'en paye aujourd'hui le prix. Hein. Il y a une usure du corps qui m'a l'air plus profonde que nécessaire à 71 ans, mais qui a été extraordinairement porteuse.